Et le journal est présenté aujourd'hui par Isabelle Souquet.
Bonjour. L'Azerbaïdjan et l'Arménie n'en finissent pas de se disputer le Haut-Karabakh. Une nouvelle fois, le ton est monté et des combats se déroulent en ce moment même dans la province sécessionniste. Tension aussi en Biélorussie où se tiennent de nouvelles manifestations anti-Loukachenko, alors que le président français sera en visite dans les Pays-Baltes dès demain. Et puis, peut-on aujourd'hui ne pas bénéficier d'un congé spécial quand on est jeune papa? Eh bien, la question se pose aujourd'hui en Suisse. Ils sont de plus en plus nombreux à réclamer et très vite des mesures drastiques pour éviter une deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Les médecins, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins en tête et aussi plusieurs collectifs de praticiens, ils réclament la mise en place de mesures dès ce week-end pour éviter un engorgement des structures de réanimation d'ici à moins d'un mois. Hier, plus de 14 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés et le taux de positivité continue d'augmenter. Un nouveau modèle d'agriculture en discussion ce week-end dans toute la France, à l'image de la Convention citoyenne pour le climat. Une assemblée citoyenne sur l'agriculture rassemble 140 personnes tirées au sort, de tout âge, venues de tout le pays, et qui vont devoir faire des propositions pour redéfinir les contours de la prochaine PAC, la politique agricole commune. La PAC réformée tous les 6 ans, qui est en plein processus de renégociation au plan européen pour la période 2021-2027. Et pour la toute première fois, les citoyens sont donc appelés à donner leur avis, Manuel Ruffez.
Avant cette assemblée, il y a déjà eu une première phase de consultation en ligne qui a attiré des centaines de milliers d'avis de citoyens qui se sont prononcés pour une PAC qui assurerait un revenu aux agriculteurs en prenant plus en compte l'environnement et le bien-être animal. Mathieu Courgeot est éleveur laitier en Vendée, mais aussi président de la plateforme pour une autre PAC. Et pour lui, sans conteste, il est important que les citoyens aussi se mêlent d'agriculture.
Nos concitoyens, c'est d'abord nos voisins qui vivent sur nos mêmes territoires. C'est aussi nos clients, c'est eux qui achètent nos produits. Et c'est aussi eux qui financent la PAC via leurs impôts. Donc c'est vraiment primordial qu'il y ait ce dialogue qui soit reconstruit entre ces deux mondes qui parfois s'éloignent.
Consultation en ligne, assemblée citoyenne, débat dans toute la France pour une restitution à la fin de l'année et réponse du gouvernement attendue en début d'année prochaine. Avec beaucoup d'espoir.
On est quand même relativement inquiet du sort qui a été réservé à la Convention citoyenne sur le climat où il y a malgré l'engagement d'Emmanuel Macron à reprendre sans filtre les mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, on voit que c'est une question qui est un petit peu compliquée. Et donc voilà, nous, notre demande, elle est vraiment de retravailler ces questions-là et que l'avis des citoyens soit vraiment pris en compte.
La France devra ensuite porter le message au niveau européen.
Manuel Ruffez. La situation est redevenue explosive au Nagorno-Karabakh, cette région séparatiste de l'Azerbaïdjan. De violents combats ont en effet éclaté aujourd'hui entre les forces des deux camps et son président a décrété la loi martiale et une mobilisation générale de toute la population de plus de 18 ans en réponse, dit-il, à une offensive de l'Azerbaïdjan. Les deux anciennes républiques soviétiques, Arménie et Azerbaïdjan, s'opposent depuis des décennies au sujet de ce Haut-Karabakh, une région peuplée majoritairement d'Arméniens et cela dans un contexte de rapport de force entre la Russie et la Turquie. Jean-François Pérouse, ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes.
Ce contexte-là, avec plusieurs théâtres d'opération de la complexe relation entre la Turquie et la Russie, jette un autre éclairage sur ce qui se passe au Nagorno-Karabakh. Et puis, il y a la question de l'évolution du régime turc, de la façon dont celui-ci se nourrit des crises et de la dérive militariste de ce régime, qui cherche en quelque sorte aussi pour ses exportations, puisque la Turquie est devenue un grand pays exportateur d'armement. Et donc, la Turquie arme l'armée azerbaïdjanaise. Et par conséquent, ce conflit permet aussi de faire valoir ce matériel, notamment les drones. Il y a cette dimension aussi qu'il faut prendre en compte, parallèlement à celle d'un conflit non résolu depuis 1993. Et je crois que c'est important de replacer dans ce double contexte un conflit gelé, mais qui est réactivé dans un contexte bien précis, qui est celui de la complexe relation de la Turquie à la Fédération de Russie d'une part, et de la complexe relation de la Turquie à son environnement régional, d'une Turquie qui dérive vers l'autoritarisme dans la conduite même de son économie, et qui par conséquent se nourrit aussi des conflits régionaux, de la Libye, au Nagorno-Karabakh, en passant par la Syrie.
La France, l'Union européenne et la Russie aussi appellent à un cessez-le-feu immédiat et à une reprise des négociations. Sans surprise, aux États-Unis, Donald Trump a choisi une juge ultra-conservatrice pour remplacer la regrettée doyenne de la Cour suprême. La nomination d'Amy Coney Barrett doit encore être validée. Si c'est le cas, le président américain aura réussi en un seul mandat à placer 3 juges conservateurs au sein de cette Cour. Washington, Grégory Phillips.
En meeting hier soir en Pennsylvanie, devant ses supporters comblés, Donald Trump ne boudait pas non plus son plaisir. Après le juge conservateur Gorsuch, après le juge conservateur Kavanaugh, je viens de nommer Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Pour Donald Trump, la disparition de Ruth Bader Ginsburg est l'occasion rêvée de faire pencher cette Cour encore un peu plus à droite, avec demain sans doute 6 juges conservateurs contre 3 progressistes. C'est un argument de campagne massif pour une nouvelle fois séduire les chrétiens évangéliques anti-avortement qui en 2016 était près de 80% à avoir voté pour lui. Alors le président maintenant veut aller vite. Les auditions par le Sénat de la juge Barrett pourraient commencer le 12 octobre. Elles vont durer 4 jours, puis ensuite il y aura un vote au Sénat quelques jours plus tard, à la majorité simple, avec 53 sénateurs républicains contre 47 démocrates. Normalement cela doit passer. La Maison-Blanche espère pouvoir faire en sorte que ce vote ait lieu au plus tard le vendredi 30 octobre, 4 jours seulement avant la présidentielle.
Grégory Phillips à Washington. Nouvelle marche ce dimanche en Biélorussie en opposition à Alexandre Loukachenko. Le président qui a prêté serment de façon inattendue cette semaine en dépit d'un mouvement de contestation sans précédent. À la veille de son déplacement dans les Pays-Baltes, Emmanuel Macron prend lui position. Loukachenko doit partir, il le dit dans un entretien au journal du dimanche. Le président estime que c'est un pouvoir autoritaire qui n'arrive pas à accepter la logique de la démocratie et s'accroche par la force. En réponse ce matin également du chef de la diplomatie biélorusse, il accuse les puissances occidentales de semer le chaos et l'anarchie dans le pays. Pendant ce temps-là, en Biélorussie, les manifestations continuent à Minsk et le président Loukachenko ne veut rien lâcher, Eric Bigala.
Comme tous les dimanches depuis la mi-août, c'est aujourd'hui jour de manifestation pour l'opposition à Alexandre Loukachenko. Et comme tous les dimanches, ils seront sans doute des dizaines de milliers à se rassembler dans la capitale Minsk, mais aussi dans les centres-villes de province pour demander son départ. À première vue, Alexandre Loukachenko semble pourtant fermement accroché au pouvoir, pouvant compter sur la fidélité des forces de sécurité biélorusses et sur le soutien de Moscou. Mais les pressions se multiplient également. L'adresse d'Emmanuel Macron, l'invitant à quitter le pouvoir, n'est que la dernière en date. Jeudi, l'Union européenne faisait savoir qu'elle ne reconnaissait pas sa légitimité à la tête du pays. Vendredi, les Pays-Baltes, les voisins de la Biélorussie, annonçaient avoir ajouté, en plus d'Alexandre Loukachenko lui-même, une centaine de personnes à leur liste noire de personnes indésirables. L'Union européenne devrait décider de sanctions à l'encontre du régime lors de son sommet de jeudi et vendredi prochain. Et même la Russie se fait régulièrement l'avocate d'un changement à la tête du pays, demandant des réformes constitutionnelles ou évitant soigneusement de reconnaître la légitimité du troisième mandat revendiqué par Loukachenko depuis le scrutin du 9 août.
Éric Biegala. Le congé paternité en Suisse est un sujet particulièrement important pour le pays, tout simplement car il n'en possède pas. Alors que la France vient d'allonger la durée du congé paternité à 1 mois, les nouveaux papas suisses n'ont droit à aucun jour de repos. Eh bien, ça pourrait changer dès aujourd'hui puisque les électeurs doivent dire s'ils acceptent d'accorder 2 semaines de congé aux jeunes pères. Des jeunes pères qui acceptent de moins en moins le retard de leur pays en matière de politique familiale, Jérémy Lange.
Bonjour.
Jérémy, Renata.
Vous allez bien ?
Oui, bien.
Renata et Jonas attendent leur premier enfant. La naissance est prévue demain, quelques heures seulement après le référendum. Ils n'ont pas réfléchi longtemps avant de voter par correspondance. Ce sera un grand oui pour instaurer le premier congé paternité en Suisse.
Ça n'encourage pas du tout à la vie de famille. C'est un peu archaïque du fait que maintenant les mamans doivent aussi travailler. Donc je vois pas pourquoi la maman devrait s'arrêter pour être entièrement disponible pour l'enfant alors que le papa doit continuer à travailler. Enfin, il y a un déséquilibre, c'est complètement hors du temps.
Jonas sait qu'il n'a pas à se plaindre. Son employeur lui accorde déjà 10 jours de congé, mais il souhaite étendre la mesure à tous les papas. Ils ne peuvent en théorie poser qu'un seul jour pour les mêmes motifs qu'un déménagement.
Un ami avait eu un collègue qui allait être papa de jumeaux. Et puis l'employeur, assez fier, a dit « Ah, comme t'as des jumeaux, je te donne pas 1 jour, mais 2 jours de congé paternité. » Et je trouvais ça assez ironique et triste de faire une pseudo-générosité qui est absolument dérisoire et presque insultante.
Les sondages donnent le oui au congé paternité largement en tête, malgré l'opposition des partis de droite.
Jérémy Lanche, midi 39 sur France Culture, l'heure de la face cachée du globe, et l'on va reparler du Liban et de la mobilisation de la diaspora et encore du conflit israélo-palestinien avec vous, Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour Isabelle. Le Brésil abrite la plus importante communauté libanaise au monde. La tragédie qui a frappé Beyrouth il y a moins de 2 mois n'y a laissé personne indifférent. En plus de l'aide gouvernementale apportée au Liban, des dons importants ont été récoltés par la population et des manifestations culturelles sont encore organisées pour aider à la reconstruction de Beyrouth. Une solidarité envers le Liban que l'on n'avait pas vue depuis bien longtemps, reconnaissent les Brésiliens d'origine libanaise, la correspondance d'Anvinia à Rio.
Milton Atum est un écrivain brésilien né en Amazonie et d'origine libanaise. Dans son œuvre, il parle de ces deux pays et de l'intégration des immigrants en Amérique latine. Aux côtés des Italiens et des Japonais, les Libanais sont une des communautés les plus importantes au Brésil.
La communauté des Brésiliens d'origine libanaise est énorme au Brésil. Près 6 millions ou 7 millions de Brésiliens. À vrai dire, entre les Brésiliens d'origine syrienne et libanaise, sont plus de 10 millions. Ils ne parlent plus l'arabe. Les immigrés s'y sont intégrés tout de suite au Brésil. Et ça, c'est une chose très positive, je crois. Parce qu'il n'y a pas cette nostalgie de retour.
Une vision partagée par Chantal Reyes, correspondante du journal Libération à São Paulo. Cette Libanaise qui vit depuis 19 ans au Brésil constate qu'il n'est pas toujours facile d'entretenir des liens avec son pays d'origine quand on l'a quitté depuis bien longtemps.
Les Brésiliens d'origine libanaise, ils ne sont pas libanais, ils sont brésiliens avant tout. Le Liban, ils n'y ont souvent jamais mis les pieds, ils n'ont pas la nationalité. Donc pour eux, ils sont souvent de la 3e ou de la 4e génération. Parce que les premières vagues d'émigration remontent à la fin 19e, début 20e. Et donc, leur lien avec le pays est vraiment très ténu. Et en fait, c'est surtout l'explosion du port qui a attiré l'attention. Cette explosion a vraiment frappé les esprits par son énormité. Et c'est vrai que du coup, ça a suscité une mobilisation des Brésiliens d'origine libanaise qu'on n'avait pas vu à d'autres moments tragiques que le Liban a pu traverser par le passé.
Après le drame, la communauté libanaise a été très généreuse et s'est organisée rapidement, tout comme la récupération politique orchestrée par le président Jair Bolsonaro, souligne encore Milton Atum.
Le plus pénible, c'est le président de la République qui a envoyé l'ancien président d'origine libanaise aussi, Michel Temer, pour aller au Liban. Et par contre, ici, il n'a rien fait par rapport aux Brésiliens qui ont été victimes de la pandémie. Donc, c'est un opportunisme parce qu'il sait qu'il y a des millions de Brésiliens d'origine libanaise. Il ne pense qu'aux élections de 2022. Donc, il agit de manière atroce, comme d'habitude d'ailleurs.
Impossible d'ignorer la communauté issue des pays arabes pour les politiques. Lors de l'élection présidentielle, l'adversaire de Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, du Parti des Travailleurs, est aussi d'origine libanaise, mais il ne l'a guère mis en avant. Il a par contre participé activement à la campagne de solidarité après l'explosion du port, mais comme des millions d'anonymes brésiliens.
D'intenses activités diplomatiques autour du conflit israélo-palestinien ces jours-ci. Dans leur discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président palestinien Mahmoud Abbas a demandé l'organisation d'une conférence internationale début 2021, après l'élection présidentielle américaine. Emmanuel Macron a, lui, considérer qu'une paix juste nécessite avant tout de retrouver les voies et moyens d'une négociation décisive qui permette aux Palestiniens de disposer enfin de leurs droits. Réunis à Amman, les ministres des Affaires étrangères jordaniens, égyptiens, allemands et français ont pour leur part pressé Israël et les Palestiniens d'engager un dialogue crédible pour restaurer l'espoir d'un processus de paix. Et Frédéric Mettezo, vous êtes notre correspondant à Jérusalem, le Fatah et le Hamas se sont engagés de leur côté à organiser des élections dans les 6 mois. Alors va-t-on vers une réconciliation interpalestinienne ?
Il n'y avait pas eu de pourparlers à si haut niveau depuis 3 ans entre le Fatah au pouvoir en Cisjordanie et le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. À Istanbul, les délégations sont convenues d'organiser d'ici la mi-mars des législatives, puis une présidentielle et enfin l'élection du Conseil central de l'OLP. La dernière présidentielle, remportée par Mahmoud Abbas, remonte à 2005 et les législatives à 2007. À l'époque, la victoire de ses rivaux islamistes du Hamas avait provoqué la scission entre les deux territoires et depuis, la réconciliation se fait attendre. Mais cette fois-ci, plus plusieurs observateurs sont plus optimistes. Il y a urgence à se retrouver à cause de l'isolement diplomatique des Palestiniens qui voient Bahreïn et les Émirats faire la paix avec Israël sous parrainage américain. Il y a aussi l'urgence économique et sanitaire, mais des obstacles demeurent. La bonne volonté des négociateurs va-t-elle redescendre sur le terrain ? Israël acceptera-t-il que les Palestiniens de Jérusalem-Est votent ? Quid des réfugiés palestiniens du Liban ou de Jordanie ? Et surtout, un scrutin suffira-t-il à renouveler le projet national palestinien, à redonner confiance à une société où, en interne, les libertés d'expression, syndicale, d'information ou d'association sont trop souvent malmenées ?
Merci à vous, Frédéric Mettezo, et à dimanche prochain.
À dimanche, Nabila. Un mot de météo, toujours pas d'été indien. C'est un temps frisqué d'automne qui continue avec de la pluie dans à peu près toutes les régions. Température maximale de 8 à 18 avec un timide 21 pour la Côte d'Azur et la Corse.